Bonjour à tous. Cette lecture dans le livre des Actes, pour la première lecture, s'adressant à des Athéniens, donc des Grecs, des non-juifs, parmi lesquels il y avait des épicuriens et des stoïciens, des philosophes donc, l'apôtre Paul s'adresse à une culture qui n'est pas la culture juive, et pourtant il va reprendre un thème que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui s'adresse à Israël, mais il va reprendre ce thème et il va l'orienter sur la totalité des nations, puisqu'il va dire, comme cela a été lu tout à l'heure, que sans compter les temps d'ignorance, Dieu, à partir de maintenant, demande à tous les hommes qu'ils se repentent. Et donc, c'est pour cela qu'on a choisi le thème de la repentance. Et ensuite, dans le livre des Proverbes, il nous est rappelé ce qui nous a été donné tout à l'heure. Il y a moyen d'avoir le verset de Proverbes ? Ok. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et là, une fois de plus, cela s'adresse à tous les hommes. Et j'aimerais faire la distinction que la Bible elle-même effectue entre tous les hommes, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi pour ce verset et le précédent, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Dans la vie chrétienne, il y a des choses que l'on fait une seule fois dans sa vie. Par exemple, on se convertit une seule fois. Une fois qu'on est converti, né de nouveau, eh bien c'est pour toujours. Et à aucun moment dans les Saintes Écritures, il ne nous est demandé de nous reconvertir, de naître une deuxième fois. De la même manière que la naissance physique s'effectue une fois pour toutes, eh bien la naissance spirituelle, la nouvelle naissance, a lieu une fois pour toutes. Par contre, en ce qui concerne la repentance, eh bien, les Saintes Écritures nous parlent de repentance pour accéder à une relation personnelle avec Dieu. Et en même temps, les Saintes Écritures nous parlent de la repentance dans notre marche de chrétien, où il nous est demandé de confesser nos fautes et de les délaisser, comme cela est indiqué ici. Alors nous allons, dans les minutes qui nous sont imparties, nous pencher quelque temps sur ce mot « repentance ». La repentance, littéralement, tirée du mot grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament, indique un changement de mentalité. Quand on rentre dans la repentance, on va changer de mentalité, d'état d'esprit, d'intention. Ce que l'on pensait avant, on va en partie l'abandonner pour recevoir une nouvelle pensée. Avant, on ne se préoccupait pas spécialement de Dieu. Mais le changement de mentalité, c'est se tourner vers Dieu, le chercher, tenter de rentrer en contact personnel avec lui, se réconcilier avec lui. La repentance, c'est aussi la tristesse qu'on éprouve par rapport au mal qui nous habite, c'est-à-dire au péché, à ce que nous pouvons penser, faire ou ne pas faire. La repentance, ça touche véritablement à un état intérieur qui est connu de tous les hommes. C'est donc la tristesse qu'on éprouve par rapport à ses péchés, à ses imperfections, à cette imperfection naturelle qui est chez nous. Mais c'est en même temps découvrir un sentiment de douleur d'avoir offensé Dieu. La repentance, elle a donc deux axes principaux. Elle nous remet en cause et elle nous oriente vers Dieu. On n'est pas en train de se faire du remords. On n'est pas en train de regretter d'une manière humaine nos péchés. On est en train de prendre conscience que véritablement nos péchés nous mènent à la mort et qu'en même temps, si nous avons offensé quelqu'un, nous avons non seulement offensé des hommes et des femmes, mais nous avons offensé Dieu. Et c'est en cela que la repentance oriente en quelque sorte d'une manière différente notre regard, nos conceptions, notre ressenti, nos sentiments. La repentance est une nécessité absolue dans les Saintes Écritures. Puisque si la foi est la condition essentielle pour saisir le salut par grâce, hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, donc la foi c'est ce qui va permettre de saisir le cadeau que Dieu veut nous faire en Jésus-Christ, cette foi elle va automatiquement être accompagnée d'une vraie repentance. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, vous avez des binômes comme cela. Vous avez justice et miséricorde. Vous avez pardon et sainteté. Vous avez amour et vérité. Et vous allez aussi trouver repentance et foi, ou l'inverse, foi et repentance. Parce que l'une ne va pas sans l'autre et réciproquement. C'est pour cela que le premier message du Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles est le suivant dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15. Le Seigneur dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Vous voyez, repentez, le repentir et croire, donc la foi. Repentez-vous et croyez. Et comme nous le savons, Jésus est venu sauver non pas des justes, puisqu'il n'y en a aucun d'ailleurs, personne n'est juste sur cette terre, mais des pécheurs. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé dans les Saintes Écritures de nous repentir quoi que nous pensions sur nous-mêmes. Il y a dans les évangiles une situation où des hommes viennent voir Jésus-Christ et lui disent « Seigneur, les Galiléens qui ont été mis à mort par Pilate, et dont Pilate a mélangé le sang avec des sacrifices d'animaux, ils devaient être d'immenses pécheurs. » C'est ce que leur intervention suppose. Et en écoutant ces propos, Jésus regarde ces hommes et peut-être ces femmes et leur dit « Ils n'étaient pas plus pécheurs que n'importe lequel d'entre vous. Si vous ne vous repentissez, vous périrez tous également. » Donc c'était des gens qui pensaient qu'ils étaient peut-être d'un niveau moral un petit peu supérieur à ceux dont le sang avait été mélangé avec les sangs des sacrifices d'animaux. Eh bien Jésus ramène tout le monde au même niveau. Et alors ils vont insister en disant « Mais et ceux sur lesquels la tour de Siloé s'est effondrée ?» Voilà que des gens se promenaient là, prenaient de l'eau. Et puis boum, il y avait un puits à Siloé. Et puis boum, la tour s'effondre. Et alors les gens du peuple se sont dit ben, « Pour mourir de la sorte, il faut vraiment être d'immenses pécheurs. » Et puis Jésus, au rappel de cet événement historique, regarde ses interlocuteurs et leur dit « Non, ils n'étaient pas plus pécheurs que les habitants de Jérusalem. Et si vous ne vous repentez tous, vous périrez également. » Il y a donc dans la repentance une série d'étapes. Et la première des étapes qui constitue la repentance, c'est la conviction de péché. C'est le profond regret d'avoir offensé Dieu. Si on cherche Dieu de tout son cœur pour être réconcilié avec lui, se mettre en relation avec lui, être en paix avec lui, automatiquement sur le chemin de cette recherche, Dieu, à un moment donné, va nous mettre face à notre péché, c'est-à-dire face à notre nature pécheresse, face à nos inconséquences. Et c'est le Saint-Esprit qui peut produire cette conviction. Et ce qui est remarquable, c'est le travail du Saint-Esprit avant la conversion. Quelqu'un qui cherche Dieu, automatiquement, va prendre conscience de la sainteté de Dieu et donc de la laideur de certaines de nos pensées et de la laideur de certains de nos actes. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est attristé par ce qui n'est pas saint. Et cette tristesse, le Saint-Esprit est capable de nous la communiquer avant la conversion. Tristesse accompagnée de la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qui rend triste ? C'est quand on voit la splendeur de Dieu et qu'en même temps on est éclairé sur soi-même et qu'on se dit « mais c'est terrible, je n'arrive pas à ce niveau de sainteté ». Et là, il y a une tristesse qui nous envahit quand on n'est pas encore chrétien. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit répand sa tristesse dans le cœur de ceux qu'il veut gagner. Je ne sais pas comment vous êtes converti, mais moi, je me souviens dans ma recherche de Dieu, À un moment donné, j'ai ressenti de la tristesse, non pas à cause des autres et de la société, mais à cause de ce que j'ai découvert en moi. Une capacité à faire le mal, à penser de travers, à être jaloux, à être critique, à juger les autres, etc. Et ça a commencé à me déplaire profondément, c'est-à-dire que j'ai commencé à me déplaire moi-même, j'étais déçu, et j'étais triste de ne pas pouvoir me sortir de cet état-là. Et c'était un travail du Saint-Esprit pour m'amener à la conversion, à Jésus-Christ. Et cette tristesse que le Saint-Esprit va placer dans nos cœurs, c'est la tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire dont on n'est jamais déçu. En 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 10, c'est ce que l'apôtre Paul explique dans cette lettre. Il dit que pour venir à Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre de repentance dans nos vies, parce que la repentance va nous amener à saisir par la foi les promesses de Dieu. Pourquoi ? Parce que la repentance arrive quand on a conscience d'être perdu dans ses propres péchés. Deuxième étape de ce que la repentance va produire, c'est la confession. Il y a beaucoup d'hommes qui savent très bien qu'ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas en demander pardon à Dieu. Regardez, quand on dit quelque chose à quelqu'un, ou même un policier arrête un citoyen français, qu'est-ce qu'il va dire, le citoyen français ? Ben, je ne savais pas, c'est pas de ma faute. Quelqu'un est pris, comme l'on dit, la main dans le sac, automatiquement il va se défendre. Au lieu de reconnaître son erreur, il va essayer de contourner la loi, les déclarations du représentant de la loi. Et la repentance va créer chez nous un désir véritable de confession, de reconnaître que nous avons mal agi. C'est ça la démarche que nous avons faite pour arriver devant Dieu et pour être sauvés. Et c'est l'histoire de David, le grand roi David, qui, après avoir commis son meurtre avec préméditation, enfin, plutôt son adultère précédé d'un meurtre, d'un meurtre avec préméditation, eh bien, il gardait le silence et ne trouvait aucun repos. Mais lorsqu'il reconnut et a confessé son crime devant le Seigneur, il a aussitôt obtenu l'assurance du pardon. La repentance va donc nous amener à la conviction de péché, à la confession du péché et à l'abandon du mal. C'est assez extraordinaire l'œuvre de Dieu avant notre conversion et puis ensuite pendant notre vie chrétienne. L'abandon du mal, la vraie repentance produit un dégoût du péché et une rupture des mauvaises habitudes. Je ne sais plus si je vous l'ai dit il y a peut-être 15 jours, mais je ne sais plus si j'étais là il y a 15 jours ou 3 semaines, mais tous les lundis, nous avons un non-chrétien qui vient à la maison pour des études bibliques, puis tous les mercredis, nous avons une voisine qui vient pour également l'étude biblique. Alors, cet homme qui vient le lundi, il revenait d'un mariage et il nous a dit, il n'est pas encore au Seigneur, hein, il cherche Dieu, il s'intéresse à la Bible. Et il nous a dit, mais dans le fond, j'ai plus de plaisir à être avec des chrétiens, à chercher Dieu, qu'à être au milieu de tous ses amis, on boit, certains fument, on chante, on danse, tout ça, mais on s'amuse, mais je ne sais pas, je préfère être avec les chrétiens. Il n'est pas encore sauvé. Hein. Donc vous voyez, il y a un changement. Et donc, les Saintes Écritures vont créer, la repentance va créer un véritable dégoût du péché, une prise de conscience et une rupture donc des mauvaises habitudes. Et il s'agit, par un changement de vie que Dieu va opérer en nous, de produire des fruits dignes de la repentance. Et d'ailleurs, Paul prêchait partout la repentance et la conversion à Dieu. Vous voyez, repentance, conversion, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance en Actes 26, chapitre 26, verset 20. Un commentateur a écrit : la repentance nous amène à un changement d'avis pour obtenir un changement de vie. Un changement d'avis, c'est-à-dire de voir les choses comme Dieu les voit, pour accéder à un changement de vie. C'est-à-dire cette transformation que seul Dieu est capable d'accomplir, une transformation à l'image du Christ. Dieu fait homme dans un corps mortel et manifestant la pureté, la sainteté divine. Et puis, la repentance, comme on l'a vu, va nous amener à la conversion. Pourquoi ? Parce que la repentance nous fait prendre conscience de notre péché et de notre perdition. Et comme on a entendu en même temps que la sainteté de Dieu, on a entendu parler de son désir de nous sauver, de la réalité d'un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix. Il y a donc une parole de jugement sur notre péché et une parole d'espérance pour notre vie future. Quand je dis futur, c'est futur sur cette terre et futur dans l'éternité. Il y a donc un jugement sur notre péché et une parole d'espérance, de pardon et de vie éternelle. Et c'est pour cela que, naturellement, la vraie repentance va nous amener à la conversion. Je demande pardon à Dieu pour mes péchés, je reconnais que je ne peux pas m'en sortir tout seul, et je crois, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, et je crois que le Christ est mort sur la croix pour mes péchés, je le reçois, et à ce moment-là, je passe par ce qui s'appelle la conversion. Je change totalement d'orientation. Je ne vis plus pour moi-même, mais je veux que vive pour Dieu et que Dieu vive en moi. Et voyez comment la repentance précède ou accompagne, comme vous voulez, accompagne la conversion. Une véritable conversion va manifester à un moment donné une prise de conscience du péché. Et un chrétien qui n'a pas une prise de conscience du péché, c'est quelque chose ne sait pas bien, ou il n'a pas bien compris l'enseignement biblique, ou alors il s'est repenti sans saisir par la foi le salut en Christ. Et là, il n'y a que chacun d'entre vous qui, pour vous-même, pouvez répondre à cette interpellation, parce qu'on peut se repentir. Moi, je connais des gens qui sont croyants, qui passent beaucoup de temps à se repentir, à se frapper la poitrine, mais quand je leur demande mais êtes-vous sauvés ? Êtes-vous en relation personnelle avec Dieu ? Ils ne savent pas. Alors ils passent leur temps à se repentir, mais sans saisir le salut en Christ et la vie nouvelle en Christ et la puissance de la vie de résurrection. La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ, car en elle-même, elle ne peut aucunement effacer le péché. Ce n'est pas la repentance qui va effacer le péché, c'est la foi en Christ. Et c'est pour ça que, normalement, l'authentique repentance créée par le Saint-Esprit nous amène à une authentique rencontre avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Et puis ensuite, on arrive à la persévérance dans une attitude constante de repentance. Ça, c'est une fois que nous sommes devenus chrétiens. Pourquoi ? Parce que tant que nous serons ici-bas, nous aurons des progrès à faire et des victoires à remporter. Comme le dit Jean dans sa première épître, nous ne sommes pas obligés de pécher. Le chrétien a cette capacité, celui qui est né de nouveau, a cette capacité de pouvoir dire non au péché. Donc nous ne sommes plus obligés de pécher. En même temps, la Bible n'enseigne pas que nous ne pécherons plus jamais. La Bible enseigne que pendant notre pèlerinage terrestre, nous pouvons ne pas pécher. Mais elle n'enseigne pas que nous n'allons plus pécher. Vous voyez, là, c'est toute la nuance, enfin la nuance, c'est plus une nuance, c'est une différence fondamentale dans l'enseignement de l'apôtre Jean, et qui correspond d'ailleurs à l'enseignement apostolique d'une manière générale. Donc nous ne sommes pas obligés de pécher, mais la possibilité en est toujours présente. Surtout en face d'un texte comme celui de l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » C'est ce qu'on appelle le péché par omission. « Je sais ce qui est bien, mais je ne veux pas le faire. » je sais que je devrais rendre service à quelqu'un, mais je préfère m'occuper d'autre chose. Et puis, bon, celui-là, après tout, il n'est pas très sympathique, il m'a fait des crasses, donc voilà, je ne m'occuperai pas de lui. Alors que toutes les saintes écritures nous disent, bénis ton ennemi, amasse des trésors, des charbons ardents sur sa tête en lui faisant du bien quand lui te fait du mal. Et donc les saintes écritures sont extrêmement catégoriques. Comme je l'ai déjà expliqué, je crois, dans cette enceinte, on peut pécher volontairement, on peut pécher par omission, d'après les saintes écritures, et on peut aussi pécher en pensée. Alors que faire ? Nous sommes appelés à laisser, en quelque sorte, la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous éclairer. Je ne suis pas en train de vous partager un enseignement qui tendrait à faire de vous des gens qui vont s'introspecter. Le christianisme, ce n'est pas une introspection. Le christianisme, c'est l'expression de la vie de Jésus-Christ en nous, la manifestation de sa sainteté dans nos corps mortels, et cela se fait tout simplement sur la base de la confiance en Dieu. Une fois que je suis sauvé, qu'est-ce que je dois faire dans le fond ? Chaque jour de ma vie, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, je dois simplement demander à Dieu de me garder. Chaque prière du matin devrait contenir cette demande. Seigneur, garde-moi aujourd'hui. Avertis-moi si je pense de travers. Protège-moi et reprends-moi par ton Saint-Esprit ou ta parole, si je décide de faire quelque chose qui ne correspond pas à ta volonté. C'est-à-dire comme un enfant qui a confiance dans son père, de dire « Papa, protège-moi, veille sur moi ». Et à partir du moment où on a cette disposition de cœur, cette volonté de vivre la sainteté de Christ par sa puissance, par la puissance de son Saint-Esprit, alors Dieu va le faire. Vous le savez, chers amis, quand on marche dans la plénitude du Saint-Esprit et qu'on commet une faute, ne serait-ce que des fois les mots dépassent plus vite que notre pensée, il y a comme un frémissement dans notre cœur, un avertissement. Ou alors c'est un verset de la Bible qui traverse notre esprit et qui nous dit « Non, ce que tu viens de penser ou de dire n'est pas juste. » Ou « Non, Dieu ne veut pas cela. » Mais si on laisse passer comme ça les choses, sans demander pardon à Dieu, donc sans se repentir, alors on risque d'endormir notre conscience, de l'insensibiliser, tout chrétien que nous sommes. Et il n'y a rien de pire pour un chrétien que d'avoir une conscience insensibilisée, parce qu'à ce moment-là, il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Et la vie chrétienne, c'est cette marche de progrès en purification, c'est-à-dire dans cette capacité que le Saint-Esprit a de nous faire progresser chaque jour dans la voie de la sanctification, ne peut se faire que si on ouvre son cœur et sa pensée au Seigneur. Si on lui dit chaque jour, « Seigneur, garde-moi, avertis-moi, protège-moi. » Alors c'est une suggestion que je me permets de vous faire, par rapport aux Saintes Écritures, puisque la repentance, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qui nous mène au salut, mais c'est un don de Dieu qui, pour nous chrétiens, nous mène dans la sanctification. C'est pour ça que, dans le livre des Actes, au chapitre 5, verset 31, en ce qui concerne Israël, voilà ce que Pierre va dire dans sa première prédication après la Pentecôte. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et puis plus tard, dans le chapitre 11 du livre des Actes, au verset 18, il est dit « Après avoir entendu cela, » c'est-à-dire quand Pierre revient de chez Corneille, et donc les responsables de l'église de Jérusalem et quelques chrétiens disent « Mais comment tu as été passer ton temps dans une maison d'un, d'un non-juif, d'un païen, c'est impensable, etc. Et Pierre leur explique les choses avec sa vision trois fois renouvelée d'animaux impurs, prend et mange. Et alors, le texte inspiré nous dit, après avoir entendu cela, c'est-à-dire les explications de Pierre, ils, au pluriel, se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Dans tous les cas de figure, comme pour la foi et le salut, la repentance est un don de Dieu. Si on demande à Dieu dans nos prières qu'il veille sur nous pour qu'on marche dans la sainteté, alors il va accomplir par son Esprit Saint cette promesse, cette demande qui correspond à sa volonté, nous faire marcher dans la sainteté. À ce moment-là, nous ne serons pas en train de faire une espèce d'introspection maladive, mais nous serons simplement en train de marcher main dans la main, cœur à cœur, avec notre Sauveur et Seigneur, qui, lui, par son Esprit, pourra nous éclairer et nous conduire dans la sainteté, à l'image de Dieu son Père. Que Dieu accompagne chacun d'entre nous dans cette vie chrétienne, et que Dieu nous bénisse dans l'exercice de sa volonté. Amen.